BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
Alors ici, on décide la dissolution chaque jour. Hein. On dissout vos incertitudes sur l'avenir. On dissout l'idée que tout serait fichu et que l'avenir n'appartiendrait qu'aux autres. Comment est-ce qu'on arrive à dissoudre ces incertitudes? Grâce à des idées concrètes pour vous aider à construire un avenir via les investissements, via la bourse et via une vision actualisée du monde, large comme il l'est. C'est BFM Bourse, votre dissolvant quotidien d'incertitude. Bienvenue à tous. On est content de vous retrouver en direct, même si, alors aujourd'hui, encore, le CAC 40 souffre. Étienne Brack nous accompagne depuis la Tour Euronext. Bonjour Étienne, on est de plus en plus à la baisse là sur l'indice CAC 40.
Bonjour à tous. En effet, avec un CAC 40 qui n'en finit plus de baisser, il perd 1,8% sur les plus bas niveaux de la séance, 7723 points. Même en début de semaine, eh bien, il n'était pas aussi bas au lendemain de l'annonce de nouvelles annonces législatives. 1,5 milliard d'euros négociés dans le CAC 40, c'est peut-être la bonne nouvelle du jour, c'est que cette baisse se fait avec des volumes moins importants qu'en début de semaine.
Effectivement, alors ces dernières semaines, c'était les séances de hausse où les volumes étaient moins importants. Là, peut-être qu'on a un signal, effectivement, d'essoufflement à la baisse. Bon, on va poser la question. Romain Daubry sera avec nous, notamment à 16h30 tout à l'heure. En tout cas, la Fed a un tout petit peu semé le trouble quand même hier soir, avec désormais dans les dot plots une seule baisse de taux au lieu de trois jusqu'ici pour cette année. On parlera des perspectives en matière de désinflation quand même aux États-Unis, parce que les chiffres du jour confirment la désinflation, les prix à la production confirment ce nouveau ralentissement de l'inflation. On parlera aussi de la France, toujours sous pression, hein, toujours 60 points d'écart aujourd'hui entre les 10 ans français et allemands. On ouvrira des perspectives, et puis le mois de juin sera chaud parce qu'on aura non seulement les législatives en France, mais aussi celles au Royaume-Uni. Le 4 juillet, les Britanniques seront appelés à voter. On va en parler aussi. Et puis, toujours ce rapport de force donc, entre l'Union européenne et la Chine qui promet de recourir à l'OMC pour faire valoir ses droits face aux surtaxes douanières européennes. En tout cas, aujourd'hui, on voit que Rémy Cointreau perd plus de 5%. Le secteur auto aussi reste attaqué. Alors que les constructeurs chinois à Hong Kong, eux, ont progressé, même pas peur. Ce matin, par exemple, le titre BYD a gagné plus de 8% à Hong Kong. Geely, de son côté, a gagné plus de 2%. On est à vos côtés. On va vous apporter plein d'idées d'investissement, plein d'idées pour construire votre avenir grâce à la bourse. On joue dans votre camp, et ce jusqu'à 18h. C'est parti.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Et décidément, l'IA qui porte toutes les valeurs moteurs de ces transformations. Aujourd'hui, Broadcom, après sa publication, gagne 14% à Wall Street. On en parlait avec John Plassard dans USA Today. Si vous avez raté le direct, le replay, ça y est, disponible sur notre application BFM Business. Broadcom, plus 14% donc. Et puis Apple, de son côté, continue de distancer peu à peu Microsoft. Apple qui conforte sa place de nouvelle première capitalisation mondiale, donc devant Microsoft cet après-midi. Apple progresse d'un peu plus d'1%. Ici en Europe, on le disait, Étienne, c'est moins brillant, et notamment sur le CAC 40, rouge écarlate aujourd'hui notre CAC.
En effet, depuis plusieurs jours, vos intervenants disent attention, il ne faut pas tomber sous les 7770 points sur le futur, 7718 à l'instant. Donc les chances de rebondir sont beaucoup plus faibles depuis que l'indice est passé sous ce seuil technique. Donc forcément, ça enfonce le clou, sachant que bon, c'est vrai que le climat n'est pas favorable aux prises d'initiative en ce moment, vous l'avez dit, avec peut-être de nouvelles tensions entre l'Europe et la Chine, des incertitudes en France par rapport aux législatives, et puis un marché qui revient sur le marché américain. Quand vous regardez les valeurs à Wall Street, c'est très impressionnant de voir Apple aujourd'hui qui reprend 0,5% après avoir gagné plus de 10%, Nvidia qui reprend plus de 2-3%. Bref, le marché va sur les valeurs sûres, à l'image notamment de Hermès. Figurez-vous que c'est la seule hausse du CAC 40 aujourd'hui. C'est vraiment pour dire que le marché va vraiment sur les entreprises sans trop prendre de risques. Plus 0,3% pour Hermès à 2163 €, quand à l'inverse, les valeurs bancaires repartent à la baisse comme en début de semaine. À noter que BNP perd 2,8%, 60,08, Crédit Agricole moins 2,8%, 13,39, vous avez Société Générale également qui perd plus de 2%, quand AXA de son côté perd 3% à 31,30. À noter l'obligataire qui repart légèrement de l'avant après une belle détente hier, plus 2 points de base pour le 10 ans français à 3,17, quand le 10 ans américain continue de se détendre avec des prix à la production, ça c'est la bonne nouvelle du jour, qui sont ressortis inférieurs aux attentes tout à l'heure. Néanmoins, ça n'éclipse pas l'annonce d'hier, avec donc la Fed qui ne prévoit plus qu'une seule baisse de taux, euros contre 2 à 3 annoncés précédemment. Suite à cela, vous avez le dollar qui continue de se renforcer. 1,0784 pour la parité euro-dollar.
Gwenaël Lessard est avec nous depuis les bureaux de Swiss Life Banque Privée. Rebonjour Gwenaël, en fil rouge cet après-midi dans BFM Bourse. Il y a une valeur qu'on voudrait vous montrer, Gwenaël, c'est Vinci. Vinci, depuis le début de la semaine, est attaqué. Programme du RN qui prévoit une nationalisation des autoroutes. Vinci, aujourd'hui, perd encore 2,5%. Et Étienne, et on le voit d'ailleurs, pour ceux qui nous suivent à la radio, c'est avec BFM Bourse, BFM Business sont aussi à la télé. On voit cette courbe Vinci encore en repli, désormais venir menacer les 100 euros. On est à 100,55€, moins 2,5. Mais on a aussi, Étienne le disait, le secteur bancaire qui, allez, repart à la baisse aujourd'hui. TF1, M6 aussi, avec des interrogations sur le service public en cas de majorité suffisante pour le RN. Eh bien, TF1 et M6 sont en repli de quasiment 4% supplémentaires cet après-midi. Est-ce que vous vous dites que certaines de ces valeurs attaquées depuis l'annonce de la dissolution offrent des points d'entrée ou vous choisissez, Gwenaël, de laisser l'ensemble du train passer?
Alors, il faudra quand même attendre un petit peu. Je pense qu'il faudra quand même vraiment attendre les résultats du second tour pour voir un petit peu ce qui se passe. Si jamais il y avait quelque chose d'un peu plus positif, faut regarder les valeurs bancaires et celles qui ont été le plus attaquées. Peut-être que la Générale, qui pourrait être la plus attaquée parce qu'elle peut avoir des problèmes de financement après avec la hausse des taux, elle pourrait rebondir plus. Mais nous, on trouve qu'il y a quand même un risque reward qui n'est pas très favorable. Donc, on pourrait peut-être récupérer ce qu'on a perdu. Mais si jamais c'était plus compliqué que prévu, parce qu'il passe des lois pas forcément très très bonnes pour l'économie, ça pourrait continuer de baisser. Donc il faudra quand même être très agile, faire très attention, mais il y a un potentiel de rebond au niveau, ce qu'on a perdu, entre 8 et 10%, mais pas forcément tellement plus sur les valeurs bancaires.
Et alors, sur les small caps aussi, on voit quand même un net impact, les small caps françaises qui sous-performent les small caps européennes depuis le début de la semaine. Même question, lesquelles sont à vos yeux dans l'univers des small caps les plus à suivre pour les investisseurs, des small et mid cap, on va dire, pour parler un peu plus large?
Il faudra regarder à nouveau les valeurs les moins endettées, les valeurs les plus liquides. Donc on va plutôt aller vers des mid que des small, parce que là, les investisseurs étrangers ne vont pas du tout revenir sur les valeurs small françaises. Ils vont plutôt privilégier les valeurs européennes, et surtout plutôt les mid. Après, peut-être des retours sur les valeurs défensives, un peu dedans, et puis les valeurs exportatrices, mid-cap. C'est un peu dommage parce qu'il y avait un bon rebond des mid-cap et on pensait qu'on avait une certaine visibilité sur la fin d'année sur ce cycle de valeurs. Là, ça casse un peu la tendance.
Effectivement, alors on va reparler de cette thématique bien sûr tout au long de l'après-midi, mais il faut aussi qu'on parle du secteur automobile. Étienne nous rappelle, depuis la Tour Euronext en direct, 16h15, Étienne, Stellantis aujourd'hui, alors en plus avec des bonnes nouvelles annoncées pour les actionnaires, mais Stellantis aujourd'hui recule très nettement.
Oui, c'est la troisième plus forte baisse du CAC 40, moins 3% pour Stellantis, sous les 20 euros, 19,60 €, alors que l'entreprise tient aujourd'hui sa journée investisseur. Les analystes s'attendaient peut-être à des bonnes nouvelles, mais malheureusement, Stellantis ne fait que les confirmer, à savoir une marge opérationnelle au premier semestre qui sera comprise entre 10 et 11%, sachant qu'elle était au-delà des 14% l'année dernière, un free cash flow qui sera sensiblement inférieur par rapport au premier semestre 2023, avec Stellantis qui promet une amélioration en termes de marge opérationnelle dans la deuxième partie de l'année avec de nouveaux lancements de véhicules. Néanmoins, malgré un ralentissement de la rentabilité cette année, Stellantis maintient un taux de distribution de plus de 40% du résultat net, 7,7 milliards qui vont être redistribués aux actionnaires, que ce soit sous forme de dividendes et de rachats d'actions. Et puis le groupe qui se veut très offensif par rapport à la concurrence chinoise. Mais le marché doute et toujours à la baisse sur ce titre après un très beau parcours l'année dernière. Stellantis donc sous les 20 euros, 19,61 €, titre qui en baisse de plus de 5% depuis le début de l'année, mais qui gagne toujours plus de 25% en l'espace d'un an.
Effectivement, on le voit en direct. On rappelle à ceux qui nous suivent à la radio, à la télé, vous voyez les courbes des différentes valeurs qu'on évoque. Et ce titre, Stellantis, à 19,62 € en ce moment, effectivement. À vos yeux, Gwenaël, est-ce que le secteur automobile dans son ensemble, parce qu'on a aussi Renault, Forvia, bref, l'ensemble du secteur qui souffre aujourd'hui, est-ce que ce secteur aujourd'hui, ça y est, commence à encaisser les conséquences de la surtaxe douanière annoncée par l'Union européenne vis-à-vis des véhicules fabriqués en Chine? Est-ce qu'il y a un peu de ça aussi aujourd'hui dans la baisse du titre Stellantis en bourse?
Non, mais c'est sûr. C'est sûr que les taux, il y aura des conséquences il y aura des représailles de la part de la Chine. Donc, c'est un peu embêtant. Après, il faut essayer de voir ce qu'on peut voir de côté positif. Peut-être que Renault, même si pour Dacia, c'est plus compliqué parce que la fameuse Dacia Spring était fabriquée en Chine. Pour Renault, ça va lui permettre de gagner du temps avec les nouvelles Twingo, la nouvelle R5 qui vont arriver et qui seront à des niveaux de prix tout à fait comparables aux valeurs chinoises. Donc ça, c'est sans doute à moyen terme quelque chose d'intéressant. Nous, on pensait que Stellantis avait une bonne idée en s'alliant avec Leapmotor, une jeune pousse de la région en chinoise. Bon, on pensait que ça allait leur permettre d'éviter ça. Là, ils vont être un peu rattrapés. Carlos Tavares a dit qu'il pouvait fabriquer ces voitures chinoises en kit en Pologne. Ça, on n'y croit pas trop. Mais bon, Stellantis, c'est quand même une telle belle machine au niveau de la marge, du free cash flow, qu'une fois qu'on aura passé et digéré un petit peu ça, c'est des valeurs qui paraissent très intéressantes sur moyen terme.
Merci beaucoup, Gonel et Sarah, en direct avec nous depuis les bureaux de Swiss Life Banque Privée. Et on s'enfonce de plus en plus. C'est Étienne, tiens, qui nous signale qu'on est sur un nouveau plus bas depuis février, là. Et plus bas du jour, notamment pour le CAC 40, 7716 à l'instant pour l'indice CAC qui recule de plus en plus. On va continuer d'en parler, bien sûr. Et la famille qui va se réunir de 16h30 à 17h. Romain Daubry sera avec nous depuis Bourse Direct. Important de regarder aujourd'hui les seuils techniques sur le CAC 40 parce qu'on est passé, ça y est, sous les 7770. Largement en dessous, même sur le futur, comme sur le CAC 40 Cash qui est actuellement à 7719. Et ça ouvre peut-être de nouvelles perspectives. Compliqué pour la suite. Romain Daubry, donc l'analyse technique très très importante aujourd'hui, il sera à suivre avec nous en direct dans 13 minutes à partir de 16h30.
BFM Bourse, l'écho du monde.
Et la France vue aujourd'hui de Londres. Gilles Mouek est avec nous, le chef économiste du groupe AXA. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Quatre jours après l'annonce de la dissolution, on a vu les tensions sur le taux français, l'écart avec l'Allemagne, il y a plus de 60 points d'écart encore aujourd'hui entre les 10 ans français et allemands. Quatre jours après l'annonce de cette dissolution, quel premier bilan, sachant qu'on est qu'au tout début de la campagne, faites-vous, tirez-vous des réactions de marché face aux perspectives françaises ?
On a des réactions de marché sur l'obligataire en tout cas, qui sont des réactions... je qualifierais de visible, mais de mesuré. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement écartement du spread, mais dans des proportions qui restent quand même tout à fait gérables. Et on a des investisseurs qui tâtonnent et qui évoluent en fonction des informations qu'ils parviennent à trouver, que ce soit des sondages ou des déclarations des uns des autres. Donc on est dans cette phase de tâtonnement, de tentative de compréhension, beaucoup de questions sur la manière dont la constitution française fonctionne, beaucoup de questions évidemment d'investisseurs étrangers sur les complexités parfois de la procédure parlementaire française. Et donc voilà, on est dans cette phase parce que pour l'instant, sur la base des quelques informations chiffrées que l'on a, c'est-à-dire des quelques sondages disponibles, l'image qui ressort, c'est celle de l'absence d'une majorité stable. Et c'est ça qui probablement est pour l'instant ce que les marchés retiennent comme résultat probable.
Mais est-ce que justement parmi les résultats les plus probables, c'est pas le moins mauvais une absence de majorité stable ? Alors c'est pas terrible pour la France, bien sûr, mais enfin bon, voilà, il y a un certain nombre de réformes qui ont été réalisées depuis quelques années. Ces réformes ont été actées. On imagine qu'une absence de majorité stable, une absence de majorité absolue, empêcherait sans doute de découdre ces réformes qui ont plu au marché ces dernières années. Est-ce qu'on peut voir les choses comme ça en cas effectivement d'absence de majorité absolue?
On peut éventuellement les voir comme cela. Moi, je crois qu'il y a un élément important et ça fait parfois partie des discussions avec des investisseurs étrangers, par exemple des investisseurs américains. Une chose, par exemple, qu'il faut toujours rappeler, c'est qu'en France, il n'y a pas de situation facile de government shutdown. Hein. C'est une situation américaine où on est en blocage complet, où le budget n'arrive pas à être voté et on en arrive à des situations franchement ubuesques où, par exemple, les services publics ne peuvent plus fonctionner, les fonctionnaires ne sont pas payés, etc. En France, il y a une armature institutionnelle depuis la Constitution de 58 qui rend ce type de scénario quand même extrêmement peu probable. Donc ça, c'est une espèce de rempart. Et comme vous le dites, oui, l'absence de majorité stable, c'est peut-être aussi quelque part une réassurance sur le fait que ce qui a été fait ne serait pas défait. La question quand même derrière, c'est celle de la fragilité inhérente à ce type de situation. C'est-à-dire qu'il y aurait quand même un déficit clair de visibilité. Et ça pèserait, je pense, de toute manière, parce que la France est dans une situation autour de ses finances publiques où il ne s'agit pas simplement de conserver ce que l'on fait, il s'agit probablement année après année de faire un peu plus d'efforts. Et donc si on n'a pas de visibilité sur cette capacité à faire des progrès, je pense que là, il y a quand même un sujet, même si, encore une fois, on n'est pas du tout dans l'épure que l'on trouverait, par exemple, aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs américains qui ont tendance à projeter leur propre approche institutionnelle. On n'en arriverait pas à ce type de scénario catastrophe.
Oui, mais on pourrait imaginer, par exemple, une nouvelle dégradation à venir de la note française, même si rien n'était décousu de ce que la majorité actuelle a mis en place. Il faudra d'autres réformes pour éviter une nouvelle dégradation de la note française, forcément, et des réformes évidemment qui iraient dans le sens du marché.
Les agences, normalement, sont assez sensibles à la question de la capacité d'un gouvernement à mettre en place les mesures de correction budgétaire qui sont nécessaires. Donc, ce qui va être central, et on verra, parce que franchement, là, on est dans une étude assez totale, on verra le 7 juillet, et c'est ça qui sera probablement central pour le marché, si on est dans une situation où une majorité est possible, quelle qu'elle soit d'ailleurs, mais une majorité est possible, qui permettrait justement de prendre année après année ces mesures de correction. C'est ça la vraie question, et honnêtement, il est possible, sauf si les sondages bougent beaucoup, mais il est possible que le marché n'arrive pas à se faire une opinion très ferme là-dessus avant le 7 juillet.
Alors, début juillet sera chargé, hein, puisqu'on aura les élections ici en France, mais aussi chez vous à Londres, en Royaume-Uni aussi, hein, les législatives, le 4 juillet au Royaume-Uni. On savait en début d'année que ce serait une année électorale assez extraordinaire à l'échelle mondiale, mais on n'imaginait pas qu'elle le sera encore plus que ce qu'on avait dans le calendrier. Ben voilà, on a une sacrée année, effectivement, y compris chez vous au Royaume-Uni. Gilles Mouet, qui est en direct avec nous depuis Londres, donc le chef économiste du groupe AXA. Faut qu'on dise un petit mot aussi de la Fed, malgré tout, Gilles, qui n'ouvre plus le champ qu'à une baisse de taux pour cette année. Alors, parallèlement, tous les indicateurs d'inflation ralentissent de plus en plus. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, le prix à production aux États-Unis ressort encore une fois inférieur aux attentes. Est-ce que là, il n'y a pas un décalage, une désynchronisation entre, en tout cas, les dot plots, la réunion d'hier et désormais l'accélération de la désinflation aux États-Unis?
Oui, je pense que le nouveau dot plot était presque obsolète à la minute même où il était publié, parce que justement le même jour on a eu ces bonnes nouvelles sur l'inflation. Et c'est pas le premier mois d'ailleurs de bonnes nouvelles. Ça fait suite à déjà un premier bon chiffre au mois d'avril. Donc c'est vrai qu'on a le sentiment d'un message à en tout cas d'un message écrit de la Fed qui était un tout petit peu en décalage par rapport aux toutes dernières données. Et ça d'ailleurs, quand vous avez une banque centrale qui vous dit explicitement qu'elle est dépendante du flux de données, ben voilà ce qui arrive. C'est très très compliqué de rester en permanence complètement aligné sur un flux de données qui peut être parfois ambigu. Et moi, ce que j'ai retenu surtout, c'est la très très grande prudence de Jay Powell, qui n'a absolument pas cherché à surpondérer le message qu'il y avait dans ce fameux dot plot, qui a expliqué que c'était très incertain, que toutes les prévisions qui avaient été recueillies dans ce dot plot étaient somme toute plausibles. Et puis n'oublions pas, ça s'est quand même joué à très peu. Il y avait de mémoire 7 membres qui sont toujours sur deux baisses, 8 membres qui étaient toujours sur deux baisses, 7 qui étaient sur une baisse et 4 qui n'ont pas de baisse du tout. Donc on a toujours quand même une minorité importante de gens au sein du FOMC qui sont toujours plutôt sur une ligne relativement dovish, et les appréciations qualitatives qu'on a eues de Powell hier soir sont plutôt des messages qualitatifs dovish.
Oui, effectivement, alors voilà cette double lecture sur la réserve fédérale américaine. Effectivement, les indicateurs qui confirment le ralentissement de l'inflation, on va y revenir tout au long de l'émission et jusqu'à 18h dans BFM Bourse. Merci beaucoup Gilles de nous avoir accompagnés. Gilles Mouek, le chef économiste du groupe AXA. Wall Street qui est donc un peu mitigé. Le Nasdaq gagne 0,16%, mais le S&P recule de 0,1%, donc mitigé autour de l'équilibre. Wall Street, en revanche, le CAC est très clair, très rouge aujourd'hui, moins 1,8%, 7720 points. On est quasiment au plus bas du jour sur l'indice CAC 40 et sur des plus bas depuis mi-février. On va bien sûr revenir. Romain Daubry sera avec nous dans quelques instants pour regarder les prochains seuils techniques, parce qu'on a enfoncé aujourd'hui des paliers majeurs sur le CAC 40.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Allez, un pas de côté, c'est ce qu'on vous propose de temps en temps en investissant. Pourquoi pas dans les émergents? On vous emmène au Brésil, investir au Brésil. Elena Cocheleva va nous y aider, elle est experte des marchés émergents. Bonjour Elena, bienvenue.
Bonjour Guillaume.
Ça aurait pu être le Mexique, vu la chute du peso mexicain depuis la présidentielle mexicaine. Mais vous préférez venir nous parler aujourd'hui du Brésil? Pourquoi le Brésil, Elena?
Parce que déjà, c'est un marché qui est assez intéressant, parce que premièrement, si on prend de manière générale, c'est la première économie en Amérique latine, tant en termes de taille de l'économie qu'en termes de la population. C'est également un marché financier le plus sophistiqué, tant au niveau de la nombre, on a à peu près 350 entreprises qui sont cotées au Brésil. La qualité des entreprises est plutôt assez bonne. Mm-hmm. On a également tout un réseau des investisseurs institutionnels qui est assez fort présent. La taille des actifs représente 70% du PIB, soit 1,6 trillion de dollars. Donc c'est un marché assez profond. C'est un marché qui offre, malgré la volatilité qui peut être provoquée, notamment avec la politique, qui offre quand même pas mal des possibilités d'investissement et des opportunités d'investissement.
Oui, mais il y a la politique, comme vous dites, au Brésil, en Amérique du Sud, la politique, ça compte beaucoup. C'est un pays très, très endetté, tant au niveau public qu'au niveau des ménages.
Effectivement. Donc ça, c'est le gros sujet, si vous voulez, structurel un petit peu du pays. Et donc, depuis l'élection du président Lula fin de l'année dernière, on est à nouveau revenu sur cette problématique de la discipline budgétaire, ce qui a fait que le marché a plongé ces dernières semaines, et donc le marché est en baisse de 10% depuis le début de l'année, et la devise perd également 10% par rapport au dollar. On a également, avec l'ensemble des marchés financiers, un repricing au niveau des taux. Le taux directeur qui a été baissé de 25 points de base encore au mois de mai est aujourd'hui à 10,5%, mais le taux à 10 ans est à plus de 12%. Oui. Donc on reste sur des taux élevés. Donc ça pénalise quand même le marché. Comme vous dites, effectivement, les ménages sont également endettés. En revanche, il y a quand même des dynamiques plutôt positive. D'une part, il y a une croissance économique qui surprend depuis plusieurs années. Sur les dernières années, c'était surtout tiré par le secteur agricole qui était positif. Donc là, malgré les inondations, on va avoir un impact sur la croissance économique au deuxième trimestre, mais on attend entre 2 et 2,5% de croissance sur cette année. Également, la création des emplois, le dynamisme est plutôt fort et on est à un taux de chômage qui est au plus bas depuis 10 ans, en dessous de 8%. Donc on a un secteur privé qui reprend le relais en termes de croissance et qui apporte du dynamisme.
Allez, une ou deux idées de valeur là, pour ceux qui seraient convaincus que le Brésil vaut le coup.
Et donc voilà, en termes de...
C'est pas facile, investir au Brésil comme ça.
C'est pas facile. Et le premier titre, ça serait dans le secteur bancaire, qui est la première néobanque, qui s'appelle New Bank, donc New Holdings. C'est une société qui est cotée à New York. 55 milliards de dollars de capitalisation boursière. Le titre est en hausse de 42% depuis le début de l'année.
Donc c'est pas si difficile. On peut investir au Brésil via Wall Street.
Effectivement. D'accord. Et donc c'est une société qui arrive, c'est une banque qui arrive à disrupter le secteur bancaire, qui est un secteur oligopolistique qui charge plutôt pas mal. Donc ils sont arrivés depuis 2014 et progressivement ont capté aujourd'hui 100 millions de clients. Et donc 54% de la population adulte au Brésil utilise New Bank comme leur banque primaire.
54%.
Effectivement. Oh. Au bout de 10 ans. Et donc, c'est une société qui gagne de l'argent, qui est profitable depuis déjà 2 ans.
NU, espace, BANK, New Bank.
New Bank, oui.
Voilà, première idée. Une deuxième ?
Deuxième idée, Localiz. Si on veut regarder un titre qui pourrait reprendre, ça c'est un titre pour le coup qui a corrigé depuis un an et perd 40%. Pourquoi ? Parce que c'est un titre qui est sensible au niveau des taux.
Dans l'univers des agences de location de voitures.
Effectivement, pardon, j'ai oublié de mentionner. Donc, c'est la société qui consolide l'univers des agences de location de véhicules. Et donc, c'est un titre qui est sensible aux taux et également qui, aujourd'hui, est pénalisé par l'augmentation du prix des voitures à l'achat. Donc, ils sont en train de renouveler leur flotte. Donc, dans les deux cas, ils sont un petit peu pénalisés. Mais c'est une belle société de très, très bonne qualité et qui, à terme, consolide le marché et qui est une bonne idée structurelle.
Ça fait quoi ? Moins 40 sur un an, c'est ça ? Moins 40%. Peut-être un point d'entrée. Donc, deux idées pour ceux qui voudraient diversifier. C'est vraiment la diversification à travers le marché brésilien. Elena Kocheleva, merci beaucoup, Elena, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Et le CAC 40 toujours en repli. Romain Dobry, dans un instant avec nous, pour mesurer, regarder, essayer de détecter les prochains paliers, les prochains seuils techniques majeurs sur le CAC 40, parce que ça y est, on a enfoncé des cibles importantes, notamment les 7770 sur le futur. On est largement, largement en dessous cet après-midi. On demandera à Romain quelles sont donc désormais, d'un point de vue technique, les prochaines cibles. À tout de suite sur BFM Business.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
Et la famille se réunit chaque jour dans BFM Bourse de 16h30 à 17h. Et aujourd'hui, les équipes web nous accompagnent, les équipes radio-télé, les équipes web fusionnent. Jean-Louis Delleroux fusionne avec nous. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Fusionnez beaucoup aujourd'hui, Jean-Louis.
Ah bah ça, c'est la fusion des marchés.
Effectivement, c'est la grande fusion. C'est la fusion sur les marchés financiers. Elle est compliquée cette fusion, elle est rouge. Ah oui, quand ça fusionne, ça devient tout rouge parfois. Et là, le CAC 40 est rouge écarlate. On perd combien ? 1,8%, presque au plus bas du jour, le CAC, sur des plus bas même depuis le mois de février.
Voilà, on est sur une sacrée séance encore. Hein. Le rebond a fait pchit, j'ai envie de dire. Il y a plusieurs éléments en parallèle, hein, à mettre en parallèle. C'est vrai que c'est un peu. une accumulation de choses en parallèle. Alors il y a bien sûr la situation politique française, hein, ça inquiète tout le monde, et puis ça crée beaucoup d'incertitudes, ça, les marchés par essence détestent ça.
Il y a encore 60 points d'écart entre les 10 ans français et allemands aujourd'hui.
Voilà, donc ce qui est un plus haut
62 points
depuis plusieurs mois. Bien sûr, on va aussi en reparler, il y a les relations entre l'Europe et la Chine qui sont pas au beau fixe. Et puis il y a la Fed d'hier, là aussi on va revenir dessus, mais qui n'a pas donné de très très bonnes nouvelles du point de vue des marchés. Et donc tout ça, bah, ça pousse à la baisse. Un petit peu quand même sur une valeur, Stellantis, hein, qui fait sa journée investisseur ce jeudi. Ils ont promis d'augmenter encore leur versement de dividendes. Qui passerait de 25 à 30% des bénéfices en 2025. Ça fait pas bondir le titre.
Ah non, moi c'était moins de 2,5%. Stellantis, ça suffit pas. On va reparler du secteur auto dans un instant. Il y a une bonne nouvelle au milieu de cet orage sur les marchés. La bonne nouvelle, c'est l'inflation américaine, elle ralentit de plus en plus. On l'a vu hier dans les prix à la consommation. Aujourd'hui, les prix à la production ressortent à leur tour inférieurs aux attentes. Les prix à la production à 2,2%, plus 2,2%, alors qu'on les attendait en hausse de 2,5%. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça permet aux 10 américains, par exemple, de se détendre un petit peu aujourd'hui encore. Mais ça suffit pas. Et à Wall Street, on est très, très mitigé. Malgré ces chiffres d'inflation, désormais un peu plus encourageants aux États-Unis, il faut dire que la Fed, elle, est moins encourageante. Elle est peut-être un peu à contre-temps d'ailleurs. Gilles Mouek nous le disait tout à l'heure dans l'écho du monde, c'était vers 16h15. Si vous avez raté le direct, le replay est disponible sur notre application BFM Business. Effectivement, pour Gilles Mouek, le chef économiste du groupe AXA, les prévisions de la Fed, les dot plots publiés hier par la Fed sont un petit peu à contre-temps et peut-être déjà désuets, compte tenu du fait que les tout derniers indicateurs d'inflation marquent un ralentissement de la désinflation. Il estime donc que la Fed fera sans doute peut-être plus qu'une seule hausse de taux d'ici la fin de l'année. On y reviendra tout à l'heure,
baisse
même si... baisse de taux, heureusement que vous avez... Effectivement, plus qu'une seule baisse de taux peut-être à venir cette année aux États-Unis. Baisse de taux, là, j'ai dit. Hein. Même si dans les dot plots, c'est pas ce qui apparaît. Il est avec nous depuis Bourse Direct. Très important de le consulter aujourd'hui. Romain Daubry, bonjour Romain. Tous les jours, très
bonjour,
important. Alors aujourd'hui encore plus, parce que Romain, on enfonce peut-être des seuils techniques majeurs sur le CAC. Il est en baisse d'1,9%. Et les niveaux du CAC, là, sont très, très importants à surveiller. Est-ce que vous estimez effectivement que cette séance, techniquement parlant, est peut-être importante pour la suite, Romain?
Oui, elle est importante parce que effectivement, on flirtait avec des niveaux techniques qui étaient des niveaux d'alerte depuis plusieurs séances maintenant. Et il faut rappeler que l'indice avait bien progressé depuis le début de l'année jusqu'à la fin mars, là où il avait formé des plus hauts quasiment, et puis il avait stagné dans une congestion latérale. On peut la fixer sur le futur CAC 40, échéance du mois de juin, entre 7830 en bas, 8149 en haut. Et le fait de consolider latéralement après une hausse, c'est plutôt un bon signe de temporisation. Rompre ce niveau quelques semaines après, et après trois mois de consolidation, ça n'est pas un bon signal. Et là, on prend le chemin d'invalider, de gommer tout ce qu'on avait construit depuis le début de l'année pour revenir, puisque c'est la cible que nous donne la rupture de 7830, à des niveaux qui sont autour de 7511 points, 7477, 7500. Alors, on a des niveaux intermédiaires, mais on voit qu'un niveau à 7740 points, qui était un support important, a été enfoncé sans aucune forme de procès, assez facilement. On évolue en dessous maintenant. On a 7616 comme intermédiaire, mais la cible idéale, c'est 7511. Ce sont des niveaux qu'on a testés au mois de janvier dernier, donc on gommerait une très grosse partie de la hausse, c'est déjà le cas, mais encore plus. Alors, il faut donner un élément intéressant aussi, c'est que sur l'Eurostox, dans ce mouvement de baisse qu'on connaît, qui est très canalisé pour l'instant, puisque depuis l'échéance des marchés dérivés du mois de mai, on a 0,8% de baisse à peu près. En revanche, on a 5% de hausse de la position ouverte, du nombre de contrats futurs. Ça signifie un peu de pression baissière. C'est pas énorme, dans des mouvements de baisse forte, on peut avoir 15, 20, 30% de hausse, pour vous donner une gradation. Mais c'est significatif. En revanche, sur le CAC 40, à mesure qu'on baisse, l'intérêt diminue. C'est-à-dire que le marché baisse sans pression baissière sur le CAC 40. C'est-à-dire que c'est un marché qui est en train d'être déserté. Or, ça existe, le marché peut baisser sans pression baissière. On dit que le marché tombe dans ces cas-là de son propre poids et ça n'empêche pas d'aller chercher des cibles graphiques baissières. Le corollaire n'est pas vrai. Pour qu'un marché puisse monter, il est indispensable qu'il y ait du volume et du soutien. Pour la baisse, ça n'est pas le cas. C'est juste que les carnets d'ordre, on l'avait évoqué ensemble précédemment, sont désertés. Il n'y a pas d'opérateurs dans le marché. Effectivement, il y a des secteurs qui sont plus emblématiques que d'autres dans cette baisse. Et effectivement, le secteur bancaire qui avait touché des niveaux de support intermédiaires et qui pouvait stabiliser, eh bien, est en train de les enfoncer. Et ça, c'est pas effectivement un très bon signal à court terme. Les premières cibles sont pas trop lointaines maintenant, mais on a encore un peu de place.
Oui, secteur bancaire à nouveau sous pression depuis la dissolution. Et bon, malgré la pause d'hier, on a à nouveau cette baisse des grandes banques françaises aujourd'hui. Crédit Agricole perd 3%, Société Générale général à nouveau en être repli, mais il n'y a pas que les banques. Hein. Vinci, voilà, si le RN avait une majorité absolue possible, nationalisation des autoroutes. En tout cas, Vinci aujourd'hui perd à nouveau beaucoup de terrain, moins 2,5%. Possible privatisation du service public de l'audiovisuel. Résultat, TF1 et M6 de leur côté reculent de plus de 3,5% cet après-midi parce que le marché se dit, ah oui, si on a une privatisation de Radio France ou de France Télévisions, si on a une privatisation, il faudra partager le gâteau publicitaire. Et ça, ce serait pas bon pour TF1 et M6. Ces deux valeurs sont donc en net repli aujourd'hui 3,5%. On reste vraiment sous la pression du politique aujourd'hui sur les marchés financiers. On vous propose, Romain, de continuer de nous accompagner dans cette famille. Dans un instant, on parlera notamment du segment des spiritueux, mais d'abord, peut-être notre question du jour. Parce que nos auditeurs et téléspectateurs, Jean-Louis, comptent beaucoup. On les interroge chaque jour sur notre fil X et notre fil LinkedIn BFM Bourse. On vous interroge, alors non pas aujourd'hui sur la politique, parce qu'on l'a beaucoup fait en début de semaine, on aura l'occasion peut-être de le refaire d'ici aux législatives. On vous interroge sur la concurrence, la compétition entre Américains et Chinois, mais aussi parfois entre Européens et Chinois. Et donc cette annonce de surtaxe douanière en Europe vis-à-vis des véhicules fabriqués en Chine. On vous demande à la fin qui seront les principales victimes de cette surtaxe annoncée en Europe. Est-ce que ce seront les constructeurs français qui sont en repli aujourd'hui, les constructeurs allemands qui sont en repli aussi aujourd'hui? Est-ce que ce sera Tesla qui fabrique un peu en Chine et exporte vers l'Europe certains véhicules fabriqués en Chine? Est-ce que Tesla sera victime de ces surtaxes douanières annoncées ici en Europe vis-à-vis des véhicules fabriqués en Chine? Ou est-ce qu'à la fin des fins, les principales victimes de ces surtaxes douanières, ce seront les acteurs du luxe et surtout des spiritueux? On pense à Rémy Cointreau, en baisse aujourd'hui de 5%. C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On va vous amener, bien sûr, Romain, à réagir vous aussi, nous dire quels sont les seuils techniques. Mais Jean-Louis ne peut pas ne pas vous la poser, cette question. À vos yeux, sur taxes douanières, donc sur les véhicules électriques produits en Chine, qui seront, à moyen terme, les principales victimes de ce choix?
Alors moi, je vais vous répondre en un mot, puis après je vais m'expliquer. Hein. Pour moi, les spiritueux et le luxe. Alors pourquoi? Déjà, faut revenir sur à quoi ça correspond ces taxes douanières. Eh ben, c'est que l'UE considère qu'il y a des subventions déguisées, cachées auprès des constructeurs de véhicules électriques chinois qui exportent ensuite leurs voitures en Europe. Et donc, c'est pas normal. Et voilà, dans le cadre d'une procédure, ils ont dit, à partir du 4 juillet prochain, donc c'est pas encore en place, on augmente les tarifs douaniers. Donc on parle quand même de 17% pour BYD, 20% pour Geely, 21% pour la Dacia Spring, et même jusqu'à 48% pour certains constructeurs chinois qui ont été considérés comme pas très coopératifs ces derniers mois lors de l'enquête de la Commission européenne. Alors en théorie, d'ici le 4 juillet, ils peuvent négocier encore avec Pékin, ils peuvent trouver un terrain d'entente, mais si c'est pas le cas, effectivement, on voit mal comment la Chine ne va pas réagir en représailles en ciblant les secteurs qui exportent le plus chez elle. Alors c'est vrai que côté automobile,
et elle a prévenu d'ailleurs qu'elle allait saisir l'OMC contre la décision européenne. Ça va, ce sketch quand même, la Chine qui va saisir l'OMC, c'est magnifique.
Oui, et puis je crois que l'OMC aujourd'hui c'est plus trop où elle habite. Côté automobile, ce sont sans doute les constructeurs allemands qui sont les plus exposés. C'est pas tellement, beaucoup moins quand même les Français, parce que c'est eux qui exportent des grosses berlines vers la Chine. Moi, Tesla, donc les constructeurs français pour moi sont quand même moins concernés. Tesla,
moins que les constructeurs allemands et moins que Tesla, ou
alors Tesla, je pense, est dans une position un peu particulière parce qu'ils ont des usines partout, hein. Donc ils peuvent peut-être rebasculer une partie de la production d'un côté ou de l'autre. Ils ont des usines en Allemagne, en Europe, donc ils ont aussi des usines en Chine, ils ont des usines aux États-Unis. Donc Tesla, je pense qu'ils vont réussir d'une manière ou d'une autre à plutôt bien s'en sortir. Alors pour les spiritueux, hein, pour revenir sur les spiritueux, Rémy Cointreau et Pernod Ricard. Vous vous souvenez qu'Emmanuel Macron, quand il avait reçu le président chinois à Paris, avait indiqué que celui-ci lui avait promis de ne pas appliquer de sanctions sur le cognac français. On n'avait jamais eu vraiment de confirmation officielle en direct du gouvernement chinois. Et on n'est pas du tout à l'abri d'un revirement. Et ça pourrait faire très mal. Les exportations de cognac en Chine, c'est un quart du chiffre d'affaires de Rémy Cointreau, par exemple. Voilà. Alors, LVMH, qui a aussi, c'est vrai, des spiritueux, hein, dans son portefeuille, est quand même plus diversifié, je dirais, et davantage exposé au ralentissement de l'économie chinoise qu'à des sanctions, à mon avis.
Effectivement. Rémy Cointreau aujourd'hui trinque, je n'ai pas fait exprès, moins 5% aujourd'hui Rémy Cointreau, effectivement. Et nos auditeurs et téléspectateurs, ils sont assez d'accord avec vous, à savoir l'univers des spiritueux pourrait largement à terme finir par être victime de cette guerre commerciale, effectivement. À 53% sur cette question qu'on vous pose sur nos réseaux sociaux, à 53% vous estimez que c'est effectivement le segment des spiritueux, et pourquoi pas le luxe, qui pourrait à la fin être principale victime de cette guerre commerciale.
Et je vais enfoncer le clou, vu la situation politique française, les Chinois ont tout intérêt à taper dans un secteur qui désavantage la France, puisque finalement on aura moins de poids aussi au niveau européen s'il y a des représailles après de la Commission européenne. Donc finalement, d'un point de vue chinois, et puis voilà, le cognac, c'est pas non plus quelque chose d'essentiel à la survie.
Oui,
donc ce serait pas idiot pour eux de taper là-dedans.
Donc à vos yeux, vous tous qui nous suivez, 53% vous avez voté pour le segment des spiritueux, principale victime à venir de la hausse des taxes sur les voitures chinoises. Derrière, vous votez pour les constructeurs français à 21%, les constructeurs allemands quasiment égalité, puis Tesla qui arrive loin derrière. Romain Daubry donc avec nous. C'est vrai que c'est sur les spiritueux aujourd'hui qu'on voit l'impact le plus fort. 5,5%, même 5,8%, c'est la baisse du titre Rémy Cointreau cet après-midi. 80,50€. Est-ce que techniquement, ce titre Rémy Cointreau est amené à beaucoup baisser encore d'après vous, Romain?
Mais la rupture des niveaux de 132,80 au mois de septembre dernier validait une figure de retournement baissière très lourde avec comme cible 57,40. Le titre vaut 80,50 à l'instant. Ça laisse encore un gros potentiel de baisse. Il faut dire que la baisse qui se fait aujourd'hui rompt un support intermédiaire à 82, mais dans des volumes qui sont faibles. Il faut vraiment absolument préserver ce niveau-là et réintégrer 89,60 pour ne pas aller chercher les cibles plus lointaines. Sinon, le niveau de support qui vient ensuite, c'est la zone 71, 70, 75, qui sont des niveaux qui datent de 2016-2017 maintenant, qu'on n'a pas testé ou qu'on avait testé rapidement, brièvement au moment de Covid, mais donc vraiment des niveaux majeurs. Donc il faut une réaction très rapide sur le titre, sinon il y a effectivement encore près de 25% de baisse à venir sur ce titre pour aller chercher 57,40 qui est la cible idéale de la structure de retournement, une fois encore donné au mois de septembre dernier.
80,50€ en ce moment, c'est très mis point. Trop. Merci beaucoup Romain qui nous alerte sur les seuils techniques du jour sur le CAC 40. Et Sébastien Barthélémy qui nous appelle, Kepler Chevreux. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Le chiffre du jour, c'est la famille en direct. Il se passe toujours des choses. Alors ce chiffre du jour que vous nous proposez aujourd'hui, en direct, 16h46, ce chiffre montre que c'est quand même pas complètement la panique sur le marché malgré tout après l'annonce de la dissolution par Emmanuel Macron. C'est vrai qu'aujourd'hui le CAC perd à nouveau 1,8%. On a vu les tensions sur le marché des dettes souveraines, l'OAT bien sûr sous forte pression, mais vous nous proposez un autre zoom cette fois, le regard que porte le marché sur les entreprises françaises. Et là on n'a pas de vraie panique. Alors votre chiffre pour l'illustrer c'est plus 10 points de base, Sébastien.
Oui, effectivement, plus 10 points de base. Alors, vous l'avez souligné, on a l'impact sur les taux qui est significatif et défavorable pour le coût de financement des entreprises. Mais il faut également, et c'est essentiel, évoquer le spread du crédit. Je rappelle rapidement que c'est la différence de rendement entre une obligation d'entreprise et une obligation d'État de même maturité. Ce spread reflète le risque de crédit supplémentaire pris par l'investisseur en optant pour une obligation d'entreprise jugée plus risquée que l'obligation d'État considérée comme plus sûre. Donc, pour suivre l'évolution rapide du spread de crédit depuis vendredi dernier, avant l'annonce de la dissolution de l'Assemblée, moi je propose d'examiner ensemble les indices CDS. Je rappelle que le CDS est le crédit default swap, c'est une assurance contre le risque de défaut d'un émetteur de dette. Et plus le CDS est élevé, plus la prime est élevée, donc ça reflète un risque perçu comme plus important. Alors, ce que l'on va regarder, c'est l'indice Itrax Crossover, c'est la référence dans le domaine du crédit. Ça mesure la performance de 75 entreprises européennes et plus risquées, notées en catégorie AID, c'est-à-dire avec des notations de crédit inférieures à l'investment grade. Eh bien, cet indice est passé de 292 points de base à 305. Là, on est actuellement juste sur les 305. On était revenu à 295 après la séance d'hier. Donc voilà, on est plus 13, plus 15 points de base. À titre de comparaison, on était à 340 points de base en avril dernier. Donc pour l'instant, l'impact de la crise politique française sur le crédit européen est limité.
Effectivement. Est-ce qu'on a constaté un ralentissement néanmoins là, ces derniers jours sur le marché primaire des émissions en Europe ?
Eh ben non, c'est une bonne question. Pas réellement. Cette semaine, on a eu plus de 30 milliards d'euros d'émissions en total. La semaine n'est pas encore terminée. On a eu la participation de plusieurs émetteurs corporate, tels que EDF, WeBuild ou Tereos dans le AI. Donc on voit bien que le marché reste dynamique. Alors évidemment, la volatilité pourrait freiner le volume à mesure aussi que nous approchons de la période silencieuse avant les résultats du second trimestre.
Oui. Un tout petit mot aussi du secteur bancaire, alors que le CAC 40 perd 2%, emmené à nouveau aujourd'hui par le secteur bancaire qui souffre depuis l'annonce de cette dissolution. Aujourd'hui, BNP Paribas perd 4% à la Bourse de Paris. Crédit Agricole perd plus de 3%. Société Générale aussi en très très net repli. Sur le front obligataire et les CDS que vous suivez particulièrement sous cet angle-là, est-ce que vous sentez que ça se tend aussi pour les banques ou ça se tend moins que ce qu'on observe sur le marché actions?
Alors, moi je dirais que ça se tend moins. Alors, effectivement, les banques françaises sont particulièrement affectées, hein, tant sur le marché des actions que sur celui du crédit. Mais si on élargit notre perspective à l'échelle européenne, là encore, je peux regarder un marché du crédit. Alors, il y a des signes de contagion, mais ils sont limités. Pour évaluer cette tension, je prends l'indice iTrax, je prends les subordonnées financières qui sont les plus volatiles, les plus risquées. C'est composé de 25 banques européennes. Bon, on est passé de 105 points de base à 120 points de base, mais plus 15 points de base. On était à 130 en avril. Donc, en dehors des banques françaises qui ont tiré cet indice à la hausse, j'ai envie de dire que les banques européennes sont relativement stables. Alors là aussi, pour l'instant, on va voir. On sait que la volatilité reste importante. Ça va rester de mettre pareil, hein, jusqu'aux élections. Mais j'ai envie de dire, voilà, on a un effet taux qui est très fort et un effet spread qui est beaucoup plus limité.
Merci beaucoup. Toujours intéressant, voilà, de compléter le regard des marchés traditionnels par ce que nous dit le marché obligataire et celui aussi des CDS. C'est Sébastien Barthélémy qui nous accompagnait depuis Kepler Chevreux. Ceci dit, sur l'obligataire, là, on voit cet écart de taux entre la France et l'Allemagne encore s'accroître à l'instant. On est à combien là? 67 points d'écart de taux entre la France et l'Allemagne à l'instant. C'est un nouveau plus haut. C'est John Plassard qui nous l'indique à l'instant. Un nouveau plus haut depuis 2017 pour cet écart de taux quand même entre la France et l'Allemagne. À surveiller. On est à 3,18 là sur le 10 ans français qui est en train de remonter alors que le 10 ans allemand lui est en train de se détendre à l'inverse à 2,51. Donc 67 points d'écart cet après-midi entre les deux pays. On suit ça comme le lait sur le feu et les seuils techniques sur le CAC 40 qui perd aujourd'hui notre CAC 1,9% supplémentaire. Voici venu l'heure, 16h50, du bullshitomètre. Chaque jour, un expert de marché vient déconstruire des idées un peu trop faciles à ses yeux ou des effets de mode. Aujourd'hui, c'est Vincent Auriac, le président d'Axilia. Bonjour Vincent.
Bonjour Guillaume.
Vous êtes venu à vélo, Vincent, je crois. Vous venez de vous garer.
Le plus difficile, c'est de le garer, c'est pas de l'enfourcher.
Effectivement. Alors l'ESG, justement, l'investissement responsable est en train de passer de mode. D'ailleurs, les performances de l'ESG sont mauvaises. Ça, on l'entend beaucoup, les performances sont mauvaises en bourse. Mais vous dites « bullshit ». Vous foudroyez.
Ouais.
Oui, vous foudroyez. Cette idée que les performances ESG seraient mauvaises et décevantes, vous êtes un peu le dernier des Mohicans à y croire ?
Non, je pense qu'il faut... Il y a eu les élections, là, dimanche. Peut-être parler sur un ton de vérité. La performance ESG, ça n'existe pas. Tant que ce n'est pas en comptabilité, que c'est pas, il n'y a pas une écriture comptable qui dégrade ou qui améliore le bénéfice, ça n'existe pas. Ce qu'on mesure, c'est la performance boursière, qui donc ne tient pas compte de tout ça. Donc oublions tout ça. Le reste, les performances, il n'y a même pas un indice de la performance des fonds ISR, Guillaume. Ça n'existe pas. Donc quand on dit qu'il y a une performance, les fonds ISR font moins bien. Lesquels ? Les fonds ISR des grandes banques, des ETF ESG, qui sont calculés avec ce qu'on appelle une tracking error très réduite. C'est fait exprès pour coller à l'indice. La perf est bonne. C'est pas sur l'histoire de la perf que les gens revendent. C'est peut-être sur autre chose, mais c'est pas sur l'histoire de la perf. Alors après, il y a des fonds ISR avec plus de personnalité, avec la tracking error plus grande, où il y a même des valeurs moyennes. Mais c'est les valeurs moyennes qui sont en retard, c'est pas l'ESG. Donc je pense que tout ça, le thermomètre n'est pas construit, et on dit des trucs, mais il y a rien de scientifique dans ce qu'il
y a. Ouais, parce qu'il n'y a pas de fonds ESG, ou s'il y en a, on n'arrive pas à les détecter, on n'a pas les instruments pour détecter ESG compatibilité des valeurs présentes.
Il n'y a pas de définition, je l'ai déjà dit ici, il n'y a pas de définition d'entreprise durable. Ouais. Donc il n'y a pas de définition du fonds durable. Voilà, alors il y a des notes ESG, ok, mais une fois qu'on a dit ça, la note ESG, on peut être un très gros pollueur et avoir un double A. Ouais. C'est pas discriminant.
Donc quand on entend, et c'est vraiment ce qu'on entend énormément aujourd'hui, l'ESG, ça sous-performe depuis 2 ans, vous dites tout ça, ce sont que des trompe-l'œil. Mais il y a quand même de nouveaux instruments qui arrivent. Le nouveau label ISR, par exemple, malgré tout.
Alors, le nouveau label ISR, il va exclure les énergies fossiles.
Oui.
Premier d'entre eux, Total, va être exclu. Donc on a quand même 3,5 milliards, c'est Morningstar qui a sorti une très belle étude la semaine dernière, qui nous apprend que Total est dans 350 fonds ISR, ça pèse à peu près, la totalité des participations pèse 3,5 milliards, ça fait 2% de sa capi. Alors d'un autre côté, on vous dit, le même label ISR, qu'il faut faire de l'engagement, c'est-à-dire qu'il faut pousser les émetteurs à s'améliorer, décarboner, le faire plus vite, etc. Et puis d'un autre côté, on se sépare du plus gros des pollueurs, du plus gros des émetteurs. Enfin, il faut qu'on m'explique. Moi, ce que je propose, plutôt que de laisser partir Total Energy chez les Américains, parce que c'est eux qui vont ramasser la mise, faisons un fonds souverain. Faisons un fonds d'engagement national. Hein, sans aucune couleur politique. Là, c'est pour tout le monde. Les dividendes, ça sera dans la poche de tous les Français.
Et là, vous mettez cette proposition là pour les candidats aux législatives dans le programme. Voilà, si certains candidats aux législatives pouvaient écouter Vincent Auriac, c'est une proposition. Voilà, vous mettez gratuitement sur la table.
Alors, Guillaume, il y avait une candidate en l'occurrence écologique qui proposait de racheter Total Energy. Il fallait mettre un chèque de 150 milliards. Moi, je dis, il n'y a rien à débourser, ça coûte zéro. Les 3 milliards et demi qui sont évacués par le label ISR, on les met dans une enveloppe. Les fonds ISR inscrivent cette ligne dans leur portefeuille et ils pourront se prévaloir des travaux d'engagement qui seront faits avec Total Energy. Mais voilà, il n'y a rien à dépenser. Comme souvent, ça ne coûte rien.
Bon, après, il y a quand même des choses qui avancent. Non, au niveau européen, le régulateur, l'ESMA, propose une nouvelle réglementation, non, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est une énième réglementation. On avait eu droit à SFDR, des acronymes, il n'y a que ça dans l'ESG. On ne sait même pas ce que ça veut dire. Alors, en tout cas, le grand public. Après, on a eu des articles 6, 8, 9. Vous savez, vous lancez les dés, vous gagnerez rien avec. Hein, mais voilà, c'est des numéros perdants, tout ça. Non, les gens comprennent rien. Donc malheureusement, la réglementation de l'ESMA, il y en aura encore une autre, peut-être encore une deuxième. Encore une fois, on n'a pas défini ce qui est une entreprise durable. Donc tout ça, c'est des sauts de puce, mais on n'a pas vraiment clarifié les choses, quoi.
Et c'est quoi pour vous les conséquences pour les fonds?
Les conséquences, c'est ce que j'ai dit pour Total, c'est-à-dire que il sert quand même la vis, et d'ailleurs la vis sert dans la direction du climat, parce que c'est le seul truc. Ça fait 5 ans, je le dis ici, ou 4 ans, c'est le seul truc qu'on est capable de définir. Des émissions de CO2, le reste c'est pas définissable. Donc la nouvelle réglementation de l'ESMA va emprunter des choses du côté des PAB, des CTB qui sont des réglementations européennes d'ailleurs sur le climat, et donc reprend certaines caractéristiques, reprend des histoires d'exclusion, parce que ce PAB, ces réglementations PAB précisaient des exclusions sur le tabac, sur les énergies fossiles, etc. Donc ça va être repris, et il y a des sociétés, encore une fois c'est l'étude de Morningstar qui le précise, les sociétés qui vont être les plus concernées par ces exclusions qui devraient se mettre en place. Total Energy, j'en ai déjà parlé. Tencent, parce qu'il y a des fonds ESG mondiaux, donc ça correspond aussi à des sociétés chinoises. Ecolab, Shell, Airbus, Thales, Safran, parce que là-dedans, il y a effectivement un fléchage pour évacuer les sociétés d'armement. Et puis même une société comme BYD, qui fabrique des voitures électriques chinoises qu'on trouve dans certains fonds ESG, devra sortir de ces fonds. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite filiale qui fait des produits pour le tabac. Voilà. Ah bon. Donc le tabac, ils ne doivent pas y en avoir, pas un centime, zéro. Donc BYD, c'est pas pour les véhicules électriques, c'est pour le tabac qui est dans le truc. Voilà.
Il y a quand même des notations ESG, ça existe les notations ESG. Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire là? Elles servent plus à rien. Enfin, vous avez envie de tout vous voulez tout balancer?
Guillaume, elles sont en France depuis 1997.
Ouais.
27 ans. De notation ESG.
27 ans et toujours pas mûr.
27 ans, toujours pas mûr. On a eu Orpea entre-temps. Évidemment, ça demande un courage énorme. Mais il faut arrêter la notation ESG. Je le dis, ça ne mène nulle part. Il y a eu des grands universitaires américains qui ont tout expliqué dans des papiers de 50 pages. Tout le monde est au courant. Hein. L'ESG ne mène... Il y a des biais de construction qui sont... Voilà, c'est parfaitement documenté, donc il faut arrêter la notation ESG. Il faut lancer, donc, comme je disais, une espèce de fonds souverain qui récupère tous ces titres que la réglementation ne veut pas. Qu'est-ce que j'ai noté? Il y a plein de trucs. Alors, le site du label...
Ça, c'est votre programme pour les législatives.
C'est le programme.
D'accord.
Moi, je vais me présenter, c'est très simple, avec un mandat uniquement financier. Et je propose un truc... Toutes mes propositions ne coûtent rien, Guillaume.
Oui.
D'habitude, on ne trouve plus d'argent. Moi, toutes mes propositions ne coûtent rien. Je demande la modification du site du label ISR. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé le voir. C'est une vitrine de produits. Il n'y a aucun outil pour qu'un particulier, il y en a beaucoup, il y a 62% soi-disant des particuliers qui veulent des fonds ISR, quand ils vont sur ce site, il n'y a aucun outil pour trier les fonds. Il n'y a que les paires financières. C'est des fonds ISR, mais il n'y a rien pour trier. On ne sait pas s'il y a du pétrole, voilà. Bon, on ne sait pas. Il y a des documentations épaisses comme ça. Plus personne ne les lit, donc il faut arrêter avec des trucs comme ça. Voilà, puis moi je dis, c'est le carbone qui compte. Quoi.
On pourrait pas faire un Nutri-Score comme un Nutri-Score pour chaque secteur, par exemple, Total, il serait C, Shell serait D.
Il y en a pas encore sur tous les produits alimentaires, mais ça commence. Ouais, il faut un score carbone, une empreinte carbone.
Un programme pour les législatives. Vous êtes concerté avec les adhérents, plutôt avec le bureau politique, en l'occurrence, vous savez comment ça se passe chez les Républicains.
J'ai pas les clés.
Vous êtes quel genre de président chez Axilia, vous, Vincent?
J'ai les clés du bureau.
Mais vous n'êtes pas le seul à les avoir.
Non, attention.
C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Je peux être évacué, manu militari. Non, c'est vrai.
Le bullshitomètre chaque jour. Vincent Auriac est le président d'Axilia. Merci beaucoup, Vincent, de nous avoir accompagnés. Et à Jean-Louis. Merci, Jean-Louis. Les équipes web de BFM Bourse qui nous accompagnent chaque jour au cœur de l'émission. Dans un instant, on va se rebrancher à la séance du jour. Elle est très compliquée, cette séance. On a enfoncé des seuils techniques majeurs, nous disait Romain Daubry. Depuis Bourse Direct, on est à moins 1,9% là sur le CAC. 7 718 points. On va vivre tout ça de l'intérieur à nouveau dans un instant. Puis il y a beaucoup d'articles, hein, Jean-Louis, sur notre site BFM Bourse, notamment cet article consacré. On voulait en parler, malheureusement, on n'a plus le temps. Consacré cet article à
Habitat. Le retour d'Habitat.
Effectivement.
Le retour du Morvihan.
Le retour d'Habitat.
Ben oui, la marque, parce que la marque au niveau du site est à nouveau en ligne, a été rachetée par un groupe qui s'appelle VenteUnique.com.
Qui est coté.
Qui est coté en bourse, en l'occurrence. Et donc, ils relancent là aujourd'hui le site Habitat.fr.
Voilà.
Ben voilà. On va voir si c'est un pari, hein. C'est un pari risqué, à voir si ça se finit en belle histoire ou pas.
Et vous y consacrez un article, donc consultable et en ligne, un article
sur notre BFM. Et on parle aussi d'Elon Musk et de son plan de. Méga plan de rémunération, parce que là, on ne sait même plus comment dire.
Combien? 53 milliards?
Un peu plus de 50 milliards. Je crois que ça dépend des hypothèses.
De rémunération?
C'est
absolument délirant. C'est presque un fonds souverain, en l'occurrence, Vincent.
Magnifique. Tesla, il peut ouvrir un fonds souverain dès le lendemain, c'est clair.
Tesla gagne 7% aujourd'hui. Puis autre info, Apple qui conforte sa place de nouvelle première capi mondiale devant Microsoft, puisqu'Apple aujourd'hui progresse 5 fois plus que Microsoft. Plus 1 pour Apple, plus 0,2% pour Microsoft. Voilà, incroyable comme le monde va vite en ce moment. On va vivre tout ça à nouveau dans un instant. C'est BFM Bourse jusqu'à 18h. À tout de suite.